When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Parce que finalement, quand tu négocies, t'es toujours le sale gosse, tu vois. Quand tu négocies de l'argent, t'es soit celui qui est pas reconnaissant, celui qui te la raconte, tu es trop égocentré, pour qui tu te prends, tu es trop narcissique, tu fais chier en fait. C'est vulgaire, l'argent est complètement vulgaire. Quand tu dis à quelqu'un, putain, fais chier, j'ai perdu le landerneau. Moi, cette année, j'ai perdu le landerneau. On n'était plus que 4. 10 000 euros, ça me fait mal, quoi. 10 000 euros, c'est un gros apport sur un appartement que je pourrais acheter, c'est une épargne, c'est énorme. Donc, quelque part, tu n'en parles jamais de cet argent-là. L'argent, tu n'en parles pas.
Voici le deuxième épisode avec Adrien Bels. Adrien s'est fait connaître à la parution de « 5 dans tes yeux », un roman autobiographique paru chez l'Iconoclaste qui a eu un très beau succès, aussi bien dans les médias qu'en librairie. Et il vient plus récemment de publier son second livre, « Tibi la Blanche ». Il m'a dit « Je veux parler du rapport à l'argent en tant qu'écrivain, j'ai plein de trucs à dire et c'est un milieu où on n'en parle jamais ». Dans le premier épisode qui lui était consacré, on a exploré son enfance déclassée de minot des quartiers marseillais. Aujourd'hui, le gamin grandi dans la street porte un regard acéré sur la thune et ses non-dits dans le petit monde feutré des grands écrivains français. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va reparler d'argent avec Adrien Bels. Un jour, Adrien, t'es devenu écrivain. Bon, ça se fait pas en un jour.
Non, ça se fait pas en un jour, mais presque. C'est un ami qui me disait, je crois qu'il y a la moitié de la France qui veut devenir écrivain. Tout le monde veut devenir écrivain, c'est dingue. Et là, tu te rends compte. Mais ça, c'est important de le dire parce que ça a une importance dans comment aussi sont rémunérés les écrivains. C'est aussi un parcours chanceux, être écrivain. C'est aussi la bonne rencontre au bon moment qui fait que tu vas pouvoir être écrivain et aussi que tu aies le temps, la plage horaire et le temps, un moment de ta vie pour écrire.
Savoir que quelque part, tu as un backup financier, ça a pu t'aider déjà à prendre ce temps, pas avoir de soucis immédiats, d'urgence financière.
Ouais, ben, je le vois encore aujourd'hui, ça. C'est-à-dire que peut-être que j'en avais moins conscience avant, parce que mes parents, ils étaient plus jeunes. Et mes parents, il n'a jamais été question de te donner de l'argent. C'est-à-dire qu'il a toujours fallu se démerder pour trouver de l'argent. Mais quand même, tu as dans la tête, au fond de ta tête, te dire que tu as peut-être aussi une sécurité. Te dire que c'est possible, il y a quand même de l'argent qui t'attend à un moment donné. Tu le sais. Sûrement que ça aide. Et c'est vrai que écrire, c'est beaucoup de temps pour finalement, au niveau financier, en tout cas, possiblement aucun résultat. Tu vois, c'est assez dingue. C'est-à-dire, tu peux passer 2 ans à écrire sur un truc qui ne te rapportera rien, quoi. Il y a des trucs hyper cruels qui se passent en édition. T'imagines tous ces gens qui écrivent et puis finalement il y a que leur famille et leurs amis qui ont lu leur bouquin. Je rencontre mon éditrice à Tanger dans un atelier d'écriture à Tanger au Maroc. Au moment de Noël, je pars avec ma fille et l'éditrice, elle est à l'époque, c'est Sylvie Gracial, elle est à l'époque chez Actes Sud. Et donc elle me repère un peu, mais les éditeurs ils te disent pas ce serait bien que t'écrives. Tu vois, ils te disent pas ça clairement. Ils te disent « Ah, c'est bien !» Et puis, ils te filent un bouquin « Ah, lis ça !» Tu vois. Donc, ils te repèrent, mais ils te promettent rien. Mais toi, tu te dis quand même « Ah, putain, il y a moyen !» Je pense que quand même, que c'est bien de connaître des gens dans l'édition pour pouvoir écrire. Mais les éditeurs cherchent des textes aussi. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, quand ils passent à côté de textes qui marchent, ils se bouffent les couilles. Clairement, elles sont dégoûtées. Tu vois, on a l'exemple de Anthony Passeron, par exemple, cette année, sur Les enfants endormis, qui est un texte sur le sida. Bon, ça fait 5 ans qu'il le traîne, ce texte-là, ce manuscrit. Et puis, il le sort cette année et boum, ça explose. Et tous les mecs à qui il a envoyé des manuscrits avant sont dégoûtés d'être passés à côté d'Anthony Passeron.
Donc il y a un vrai jeu de rapport de force qui est assez bizarre avec la moitié de la France, comme tu dis, qui rêve d'écrire ou qui écrit de son côté et des éditeurs qui à la fois vont facilement refuser énormément de manuscrits qui arrivent chez eux et en même temps qui ont éventuellement un vrai besoin de textes et de bons textes et de pas se planter, quoi.
Ouais, et surtout des textes qui soient en corrélation avec ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu peux envoyer un texte qui est génial, mais si tu l'envoies chez Vertical et que c'est pas très vertical, ou si tu l'envoies chez POL et que c'est pas trop POL, ça peut être un super texte qui peut plaire à l'iconoclaste et pas à POL et vice-versa. Tu peux trouver une bonne... Mais il faut que ce soit en corrélation avec ce qu'ils font aussi. Et finalement, les maisons d'édition, en tout cas dans les rentrées littéraires, sortent très peu de textes comparé à ce qu'ils reçoivent. Ils en reçoivent, mais laisse tomber, tous les jours. Après, je pense que c'est assez rapide pour se rendre compte de la qualité d'un texte ou pas. C'est-à-dire que, je pense, les 10 premières pages, t'as compris, tu vois, si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais en tout cas, pour eux, c'est un métier.
Alors toi, tu te mets à écrire ?
Ouais.
Donc t'y vas là, tu te lances et tu commences à écrire le roman, quoi.
Ouais.
Ça te prend combien de temps?
C'est très difficile de se dire combien de temps, tu vois. C'est pas comme d'aller faire des travaux dans un appartement, quoi. C'est-à-dire écrire, tu mets pas un timer sur ton truc. Donc c'est très difficile de répondre à la question combien de temps ça t'a pris pour écrire un texte. Déjà, il y a des jours où tu écris, il y a des jours où tu écris pas. Bien sûr qu'il y a des auteurs, c'est des chevronnés, ils se lèvent tous les matins, ils tapent 5-6 heures par jour. Il y en a qui te disent ça, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je fais. Après, il y a aussi tout le travail que tu fais dans ta tronche, c'est-à-dire que un texte, tu le portes, et puis après, boum, tu le fais sortir. Des fois, il y a des gens qui écrivent très rapidement parce qu'ils l'ont porté dans leur tête et boum, ils le sortent. Après, moi, ça a duré quoi ? Ça a duré 1 an, 2 ans pour écrire 5 dans tes yeux.
Ça t'a coûté de l'écrire ? Comme du travail ? Comme ouais, des fois, faut s'y mettre.
Un premier roman, c'est toujours une espèce de souffle comme ça. Puis c'est moi, il y avait aussi sur mon premier roman une matière autobiographique. Donc et puis sur le premier roman, quelque part, tu as envie que les gens le lisent. Tu as envie de l'envoyer. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois. Tu as un gros kiff. Sur le deuxième, c'est un peu le deuxième enfant. Tu vois, le deuxième enfant, il est un peu moins attendu, y compris par toi-même. Tu sais à peu près comment ça va se passer. Donc tu es plus dans une logique de boulot, dans le deuxième que dans le premier. Dans le premier, c'est du plaisir. Et c'est là que ça rejoint la question de l'argent aussi.
Est-ce que le jour où tu signes avec un éditeur, tu as l'impression de gagner au loto ?
Moi, pour le coup, je débarque là-dedans. Je ne sais même pas, à la limite, je sais ce que c'est un prix Goncourt. Mais je ne sais pas ce que c'est un prix de Flore. Je ne sais pas ce que c'est même pas un Femina, tu vois. En fait, je connais pas du tout le monde littéraire. Je lis, mais je ne suis pas les rentrées littéraires, par exemple. Je sais qui est Despentes, je sais qui est Houellebecq, mais ça s'arrête là. Il y a des auteurs, ça fait des années. Et ils sont, je sais pas, au collège, ils ont des clubs littérature. Moi, au collège, j'étais pas dans un club littérature. Je m'en battais les couilles de la littérature. Tu vois, moi, il y a un côté street. Donc, j'ai pas trop conscience de la chance que j'ai. Je me dis pas, waouh, c'est génial, ça déchire. Et il y a un truc que je fais, c'est que je le dis à personne. À personne. Mais ça, je le fais comme un kiff. Je fais comme un kiff. Et d'ailleurs, c'est assez kiffant. C'est-à-dire que, au moment où je sais que je suis publié, je dis à personne, y compris à mes parents, je dis pas. Il y a que ma femme qui le sait. Et je tiens jusqu'au tirage du bouquin. Tu vois. Et je vais voir des potes, eux, qui sont dans l'écriture et tout. J'arrive dans des apéros, je dis, tiens, c'est quoi ? Eh ben, c'est mon livre.
En termes de prestige, c'est jackpot, quoi. Et en termes de gratification personnelle.
Ouais. Après, je peux pas trop le kiffer parce que c'est année Covid. Donc, je peux pas aller en soirée faire en mode « Ouais, je suis écrivain, tu vois. » Ça, c'est dur à vivre. Vraiment.
Il y a vraiment une part de la rémunération qui est invisible.
Mais laisse tomber. C'est la base. C'est la base. C'est-à-dire que quand on te publie, en gros, on te dit « Je t'offre ce cadeau. Je t'offre ce cadeau d'être publié. Je te fais ce cadeau. » C'est ça qu'on te dit. On te le dit même presque clairement. C'est-à-dire que déjà, c'est un cadeau qu'on t'offre. Quand tu signes pour un premier roman, tu fermes les yeux, les contrats, ils arrivent sur la table, tu fermes les yeux, tu prends ton stylo, tu signes.
Tu signes n'importe quoi.
Ouais, tu signes n'importe quoi, t'en as rien à foutre. Tout ce que tu veux, tu dis « Ah, merci, 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 merci. » Et c'est après que tu commences à penser à la question financière.
Alors d'ailleurs, ce premier contrat, il est souvent assez mal payé, non ?
Les contrats de base, ça dépend de la générosité des maisons. Moi, par exemple, j'ai mon avaloir à 1500 euros, tu vois. Et puis après, j'ai mes pourcentages qui sont à 10, 12, 14.
Alors, on va expliquer un petit peu. 1500 euros d'avaloir, c'est un argent qu'on te donne, qu'on ne te reprendra jamais.
C'est ça. C'est à eux de se démerder pour gagner plus de 1500 euros.
En tout cas,
pour ce 1500 euros-là.
Ensuite, il y a des pourcentages à partir d'un certain nombre de ventes.
C'est ça. Tu fais, alors moi, de souvenir, tu vois, ça prouve que je ne suis pas trop dans mes contrats.
Et que le premier, tu ne le regardes pas.
Et donc que le premier, je ne le regarde pas, mais pas beaucoup plus le deuxième. Mais, la négociation, je la regarde plus, mais finalement, les contrats, tu les lis jamais, tu vois. Mais c'est 10% avant les 10 000 exemplaires.
Donc 10% du prix du livre.
Voilà, 10% du prix du livre, tu enlèves les impôts, tu enlèves toutes les taxes et compagnie. Ensuite, tu passes à 12% si tu passes la barre des 10 000 exemplaires. Et après, c'est 10, 12, donc si tu passes les 15 000, et après, au-delà des 15 000, c'est 14. 10, 12, 14.
Et
ça, je sais qu'il y a des maisons qui sont à 8, par exemple, qui font 8, 10, 12. Et je crois que c'est plus d'ailleurs 8, 10, 12 que 10, 12, 14. Après, il y a des auteurs qui arrivent à négocier des 12, 14, 16 et même au-delà.
Les écrivains regardent finalement leurs contrats, les écrivains professionnels, ceux qui en vivent, que tu as pu croiser. Est-ce que c'est des choses dont vous parlez ? Est-ce que c'est des choses qui sont importantes ?
C'est des choses dont on parle, mais sans vraiment parler. Tu vois, on en parle entre deux portes. On parle plus de du nombre d'exemplaires que tu as vendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est compliqué de savoir tout ça. C'est-à-dire que quand tu écris un texte, quand tu sors dans une rentrée littéraire, tu sais jamais trop combien tu as vendu de livres, même pendant la rentrée littéraire. C'est-à-dire que les éditeurs envoient des livres à des libraires, mais il peut y avoir des retours sur ces livres-là. Donc, tu sais, par exemple, que tu sors à 10 000 exemplaires, ce qui est un beau tirage, tu vois. Donc, il y a 10 000 exemplaires dehors. Mais ça ne veut pas dire que ça se trouve que sur les 10 000, il y en a peut-être 3, 4 000, 5 000 qui vont revenir. Et ça, ça va rester sur les bras de l'éditeur. Donc, il y a ça, tu ne sais jamais trop. Tu commences à toucher ton argent, genre 2 ans après, tu vois, à toucher l'argent 1 an et demi après, peut-être que je me trompe, tu vois, un an d'exploitation, et là, on commence à te verser un peu d'argent. On commence à te verser de l'argent sur l'année passée, et on te fait une note de droit d'auteur, où on te déduit tous tes impôts, tous tes trucs, et on te dit, voilà, tu as vendu tant d'exemplaires, ça, c'est les impôts, ça, c'est le truc vieillesse, ça, c'est ta retraite. Et tu touches ton premier chèque.
Donc, ce n'est pas toi qui décides le nombre d'exemplaires qui vont être créés de ton livre. Et ce n'est pas toi qui le mets en vente. Et donc, tu as un contrôle assez minimal sur ce qui se passe avec cet objet. Y compris même pour avoir les chiffres de qu'est-ce qui a été vendu. Tu n'as pas accès...
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce qu'une maison d'édition... C'est un rapport avec un éditeur. C'est pas un rapport avec toute la maison d'édition. Donc, à une maison d'édition, il y a des gens à la diffusion, il y a des gens qui sont des commerciaux, des représentants, il y a des gens qui s'occupent de la com. Donc, il y a des comptables. Donc, t'es jamais... Toi, t'es, en tout cas, pour un premier roman, t'es toujours en rapport avec ton éditrice. Ton éditrice, elle le sait pas. Et à la limite, c'est même pas son boulot de le savoir. Tu vois, alors elle te dit, ouais, il faudrait appeler un tel pour savoir exactement, mais tu sais pas trop, en fin de compte. L'argent est un truc assez invisible dans l'édition. Et d'ailleurs, on parle du nombre d'exemplaires vendus, tu vois. On parle pas du chiffre que t'as ramené. Il y a un truc qui est par contre très clair, notamment sur 5 dans tes yeux. 5 dans tes yeux, c'est que j'ai été préempté par les livres poche.
Alors ça, le passage en poche, c'est un des premiers moyens de se faire pas mal d'argent.
Avant même que ton livre sorte. Moi, sur 5 dans tes yeux, par exemple, les maisons poches se tirent la bourre entre elles. Dès qu'elles sentent un truc qui sent bon, tu vois, au niveau commercial, ils se disent, bon, mais ça, ce texte, il va certainement sortir en poche, il va peut-être avoir du succès, mais quelque part, ils misent sur toi, parce qu'ils ne savent pas. Donc,
peux expliquer un peu ce que c'est, le système du poche?
Le système du poche, c'est-à-dire que ce qu'on achète en rentrée littéraire, par exemple, si on prend l'exemple de Cher Connard cette année, qui est le texte qui a été peut-être le plus vendu, quand tu achètes Cher Connard en édition classique, en sortie littéraire, donc ça sort au mois de septembre, grosso modo, tu achètes le grand format. Le grand format est à 20 euros, grosso modo, tu vois, un peu plus, un peu moins. Donc tu achètes le grand format. Et au bout de 2 ans ou 1 an, ça dépend des maisons, encore une fois, il y en a, c'est 1 an et demi, 2 ans, il sort en édition poche, c'est-à-dire à 7 euros.
Le prix unique du livre en France.
Voilà, 7 euros. Et là, en gros, il y a tous ceux qui n'ont pas eu les moyens de s'acheter le format classique qui achètent le format poche. Et généralement, on dit, mais encore une fois, je ne sais même pas si c'est vrai, que tu peux doubler tes ventes en poche.
Qui décide si tu es édité en poche ou pas?
Ben, c'est les maisons d'édition qui décident des maisons d'édition qui sont souvent pas... des maisons d'édition qui ne sont pas ta maison d'édition. Après, il y a des maisons d'édition qui ont leur propre collection poche, comme c'est le cas, par exemple, chez l'Iconoclaste cette année, parce qu'ils viennent de lancer leur collection poche. Mais moi, quand c'est 5 dans tes yeux, l'Iconoclaste n'a pas sa collection poche. Donc, ça veut dire que Folio, Pocket, Livre de poche se tirent la bourre et font des enchères auprès de ta maison d'édition. Mais ça, toi, tu sais pas. Tu sais pas comment ça se passe, ces négociations-là. Donc, il y en a qui disent, ouais, je préempte. Ils préemptent, en fait. Donc, je préempte et je propose un avaloir de 30 000 euros. Et moi, ah non, mais moi, je propose 40 000. Donc, ils vendent au plus offrant. Et donc, c'est comme ça que j'ai été vendu à Pocket. À l'époque, en 2020, j'ai été vendu avant que le livre sorte. En juillet, on m'annonce, on m'appelle, on me dit, ouais, tu as été vendu à 37 000 euros. Donc, la moitié était pour moi. Donc, j'avais déjà gagné de l'argent avec 5 dans tes yeux, mais c'était le seul chiffre dont j'étais sûr avant de sortir 5 dans tes yeux. Je savais que j'avais gagné 17 000 euros.
1 500 euros d'avaloir et la moitié du poche.
Mais que je toucherai, par contre, l'avaloir du poche, je le touche 1 an après, 1 ou 2 ans après. Et ça, c'est pareil. Ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, quelque part, je gagne de l'argent en vidéo, mais j'en ai pas besoin. Quelque part, je le vois comme une épargne.
Tu vois comme un bonus?
Je le vois comme un bonus. Je me dis, oh, ben, à un moment donné, il y a de l'argent qui va tomber, c'est bien, il est au chaud. Ça va tomber à un moment donné. Il y a aussi, alors pour 5 dans tes yeux, il y a aussi la vente des droits audiovisuels.
Ah, ça, c'est un autre moyen de se faire plein d'argent.
Plein, non. C'est pas dingue. Hein. La vente des droits audiovisuels, 40 000 euros, la moitié pour l'éditeur. Et moi, pour mon cas à moi, la possibilité d'écrire sur le scénario, 20 000 euros. Donc, Joker Film a acheté ces deux trucs, a acheté d'abord les droits audiovisuels et m'a fait un contrat pour développer le scénario. Donc, j'ai gagné 20 000 euros pour développer le scénario que je touche petit à petit, c'est-à-dire en rendu de différentes versions que je fais avec le réalisateur. Et par contre, les 40 000 euros, dont 20 000 qui me reviendra, je les toucherai que si le film sort. En fait, eux, ils prennent une option. Ils ont 1 an pour développer le film, qu'ils peuvent reconduire. Et s'ils n'arrivent pas à développer le film, ils ne payent que 10% de la somme. Donc, ils payeront 4 000 euros. Alors, pour revenir sur l'argent et sur la question de l'argent avec les autres auteurs, c'est quand même des questions que tu abordes avec des auteurs. Mais il faut la provoquer, tu vois. Il faut provoquer ces discussions-là. Et tu te rends compte que aucun auteur n'a le même parcours. Déjà, sauf pour les primo-romanciers. Les primo-romanciers, et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, sont représentés, peuvent être représentés par des agents. Là, c'est pas la même sauce. Là, c'est pas du tout le même délire. C'est pas la même histoire. C'est-à-dire que les agents, eux, ils connaissent tout. Ils arrivent, et d'ailleurs, les maisons d'édition détestent les agents. Et on peut le comprendre, parce que les agents, eux, ils peuvent tout négocier, à la fois le droit audiovisuel, à la fois le pourcentage. Ils peuvent tout négocier, la valoir. Et donc, les primo-romanciers, s'ils ne sont pas représentés par des agents, eux, on leur fait le truc de base.
On leur fait donc à valoir, et après...
Valoir 1500 euros, sauf, encore une fois, s'ils ont envoyé leur texte à plein de maisons... Et qu'il y a Grasset qui les veut, Lafont qui les veut, et là, c'est au plus offrant. Donc là, il y a une part de négociation. Mais si c'est une seule maison qui décide de les prendre, là, ils leur font le truc de base.
Donc, 1500 d'avaloir, un pourcentage sur les ventes à partir de 10 000 exemplaires ou plus. Et ensuite, tu cèdes la moitié des droits de tout, adaptation audiovisuelle et poche, à la maison d'édition. C'est ça, en gros, le truc de base, quoi.
Donc, tu fais ça une fois. Si ton livre a du succès, tu fais pas de la même manière la deuxième fois.
Alors, c'est quoi du succès? C'est combien du succès?
Ça dépend des maisons, ça dépend des textes, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que pour certaines maisons, 2000 exemplaires, c'est un gros succès. Pour une autre maison, 2000 exemplaires, c'est l'horreur. Tu vois, il n'y a pas de... C'est-à-dire que dans une petite maison, 2000 exemplaires, c'est waouh, génial, on s'est gavé, tu vois. Et alors que dans une autre, putain, 2000 exemplaires, limite, ils ne te reconduisent pas sur l'année d'après. Ils te disent, oh ouais, t'es bien gentil, mais ça n'a pas bien marché sur le premier truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons, elles ont tous le même logiciel. Donc, ils savent tous combien tu as vendu. Donc, quand tu as fait un premier texte, ou même 3, 4 textes, tout le monde sait combien tu as vendu de livres avant.
T'as vendu combien, toi?
Moi, sur 5 dans tes yeux, j'ai vendu à peu près 25 000 exemplaires. Ce qui est un truc énorme. Ça continue à se vendre, et ça se vend aussi en poche, bien, je pense.
En tout et pour tout, tu m'avais dit que t'avais gagné 77 000 euros,
ouais.
C'est ça?
Ouais, ce qui n'est pas exactement ça. 77 000 euros, je pense que c'est aussi... entre parenthèses, de savoir si le film va sortir, tu vois. Donc, il y a ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le succès d'un livre, ce n'est pas seulement le nombre de ventes. Je t'explique. C'est-à-dire qu'un livre, par exemple, peut t'ouvrir des portes au niveau médiatique. Un livre peut faire beaucoup de ventes, mais peut avoir une moins belle image. Tu travailles aussi pour ta maison. Tu travailles pour ta maison d'édition. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petites subtilités. C'est-à-dire, est-ce que tu es invité à tel festival? Est-ce que tu es invité à Manosque? Manosque, c'est genre la crème de la crème. Moi, par exemple, je suis allé à Manosque cette année. Je crois qu'ils avaient juste invité Cécile Coulon à Manosque, mais c'est tout chez l'Iconoclaste. Donc, il y a aussi plein de choses comme ça qui jouent et qui font aussi le succès d'un livre. Ce n'est pas que la vente du livre. Bien sûr, il y a l'aspect pécunier, ça, c'est la base, hein. Donc,
est-ce que c'est un bon marqueur, l'aspect pécunier, pour comprendre si ton livre est un succès ou pas?
Ah oui.
C'est quand même un bon curseur.
Bah grave. Après, il y a les prix. C'est-à-dire, est-ce que tu es sur les listes de prix? Donc, les listes de prix, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es sur la liste du Goncourt, si tu es sur la liste du Médicis, si tu es en shortlist du Fémina... Pour la maison d'Iconoclaste, c'est aussi qu'ils sont pris au sérieux, tu vois. Ça veut dire que pour les prochains, tu travailles aussi pour ceux qui arrivent, c'est-à-dire ceux qui arrivent l'année prochaine, tu vois. Tu travailles pour le prestige de la maison.
Tu rentres dans une maison.
Tu rentres dans une maison qui aussi est plus attrayante.
Il y a des auteurs. Qui vendent extrêmement bien, des énormes cartons. Tu regardes les plus grosses ventes sur Amazon ou sur... tu vas avoir, par exemple, prenons des auteurs connus, Guillaume Musso, Arlan Coben, Marc Lévy. Je prenais des gens qui vraiment n'avaient pas forcément de chance d'avoir des prix.
Ouais. Eux, on en revient à ça. C'est pas forcément...
Eux, ils vendent des centaines de milliers d'exemplaires.
Oui, c'est de la littérature populaire. C'est comme Maître Gims. Est-ce que Maître Gims, c'est ton kiff en musique? Je sais pas, pour certains, c'est ton kiff. Pour d'autres, tu veux dire, c'est pas forcément la qualité des textes qui fait forcément le succès.
Bon, en tout cas, y a un côté moins reconnu, moins peut-être aristocrate de l'édition ou de la littérature. Et pour autant, ces gens sont multimillionnaires.
L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tu as envie d'argent. Mais je me demande comment vit Musso, comment il le vit, le fait de ne jamais être sur une liste de prix. Je me demande comment il le vit. Si tu as l'argent, tu veux la reconnaissance. Si tu as la reconnaissance, tu veux l'argent. T'es jamais content, tu vois. Il y a toujours un petit souci. Mais il y a quand même le truc où quand tu croises des auteurs dans des salons et tout, et que tu sais que la meuf ou le mec, il a vendu, c'est le carton de l'année, mais tu sais que sa littérature, tu dis, ah ouais, mais... Pff. Mais quand même, il y a une espèce... Il prend un peu le dessus sur toi, quand même.
Il a vendu 200 000.
Il a vendu 200 000, tu vois. Mais ouais, toi, tu dis, c'est pas ma cam. Mais quand même, tu vois, il y a ce truc du succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hantise de l'auteur, c'est de plus être publié.
Ça, c'est la peur absolue.
Ça, c'est la peur absolue. Mais c'est comme ça que tout tient.
Ça peut s'arrêter demain.
Tu commences à chuter dans les ventes. Tu chutes. Et puis après, tu disparais. Donc, le sujet, tu vois. Il y a l'écriture, mais il y a le sujet. Le sujet doit être en corrélation avec un contexte politique, social. Est-ce que les gens, ils ont envie de lire ça en ce moment?
Les auteurs, tu penses qu'ils se posent tous la question?
Mais grave, avant d'écrire, notamment sur les deuxièmes, les troisièmes romans, il y a une discussion avec la maison d'édition. Tu vas voir ta maison d'édition, tu parles avec ton éditrice, tu dis « Ouais, je vais peut-être partir là-dessus. Oh, je vais peut-être partir là-dessus. » Tu vois. On t'oriente. Mais si on t'oriente aussi en fonction du marché, tu vois, quelque part. On te dit « Ouais, mais ça peut marcher. Ça peut être bien. » Et ils peuvent se tromper.
Alors, il y a les prix aussi.
Les prix, c'est le levier, un des leviers principaux avec les libraires. Tu vois.
Alors, les prix. D'abord, est-ce que tu gagnes de l'argent avec les prix?
Mais oui, tu gagnes de l'argent avec des prix. Bon, il y a deux manières de gagner de l'argent avec des prix. Par exemple, l'année dernière, il y a un mec qui s'appelle Mathieu Palin qui a écrit « Ne t'arrête pas de courir ». Je crois qu'il a eu 9 prix. Donc, en 9 prix, il a dû gagner 40 000 ou 50 000 euros. Et je crois même que c'est net d'impôts. Des prix, souvent, c'est 4 000, 10 000 euros que tu touches cash. Ça, par contre, c'est bonheur. Bim, tu vois. Et quand tu es dans des shortlists de prix...
Alors, shortlist, ça veut dire que tu l'as pas, mais tu es nominé en quelque
voilà.
sorte.
Voilà, en fait, l'effet des prix. Première sélection. Tu es en rentrée littéraire, tu viens de sortir ton bouquin... On est au mois de septembre et là, il y a les premières sélections des prix d'automne qui tombent. Tout le monde, tous les auteurs ont les yeux rivés sur Livre Hebdo. Ça devient leur page d'accueil de leur téléphone parce que tout le monde est au taquet là-dessus. Il ne faut pas se mentir, tu vois. Et ils sont tous là à regarder. Est-ce que je suis sur le Fémina? Est-ce que je suis sur le Médicis, sur le Flore? Et puis après, tu as le Goncourt. Et puis après, tu as tous les petits prix. Il y a les prix d'enseigne. Prix Fnac, prix Landerneau, le prix du Monde, et puis après une quantité. En fait, il y en a plein des prix, on ne se rend pas compte. Encore une fois, quand tu n'es pas dans le monde littéraire, tu ne t'en rends pas compte. Mais après, une fois que tu y es, le moindre petit prix, tu le chasses, tu le veux, tu vois.
Mais donc, il y en a des sélection. Il y en a des tonnes. Il y a le prix des lycéens de je ne sais pas quoi, de telle région.
Ça, les prix des lycéens, c'est encore un autre délire. C'est-à-dire que pour accéder au prix des lycéens, il faut être pris sur les premières listes des prix. Donc, par exemple... Le Goncourt a le Goncourt des lycéens. Le Fémina a le Fémina des lycéens. Mais d'abord, pour pouvoir accéder et pour qu'on aille présenter ton livre au Goncourt des lycéens, il faut être dans la liste dans la première liste du Goncourt. Et d'ailleurs, tu peux ne pas avoir pris le Goncourt des lycéens, sinon après, il y a le Goncourt des détenus. Donc, ils vont présenter aux prisons tous les trucs du Goncourt. Donc, tu peux avoir le Goncourt des détenus. Et si tu n'as pas le Goncourt des détenus, tu peux avoir le Goncourt de la Roumanie. Tu vois. C'est interminable. Mais... Ce qu'il faut capter, c'est que quand tu es sur la première liste, tu es déjà content, en fin de compte. Parce que les prix t'offrent un éclairage médiatique. Les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emmerdent pas. Hein. Les journalistes et les lecteurs, d'ailleurs. Il y a plein de lecteurs, eux, ils s'emmerdent pas. Ils regardent les listes des prix et ils vont acheter ce qu'il y a sur les listes des prix. Chaque prix a son identité. Mais tu peux être sur plusieurs prix. Quand tu es sur plusieurs prix, ça, autour de toi, ça frétille. Hein. Donc, tu es sur la première liste. Et la première liste, déjà, elle commence à faire vendre.
C'est combien de personnes, en fait, qui sont concernées par toute cette, cette petite comédie dont tu parles, là?
Finalement, ça représente, sur les gros prix d'automne, ça représente grosso modo 40-50 personnes.
C'est pas beaucoup.
Sauf qu'il peut y avoir des doublons. Donc, finalement, ça peut être encore un peu moins.
Il y a des prix qui te donnent un statut plus solide, peut-être, justement, sur cette peur de déchoir du statut d'écrivain.
Un prix, c'est comme on est en période de Coupe du Monde de football. C'est quand tu arrives en finale et que tu as perdu la finale, tout le monde, on s'en fout après. On retient pas ceux qui ont perdu la finale, on retient que les gagnants. C'est un coup de tampon. Et ça, c'est à vie. C'est-à-dire que quand tu as eu le Fémina une fois dans ta vie, tu l'as eu. Ce sera sur ta fiche Wikipédia, ce sera sur ta fiche Babelio, ça va te suivre toute ta vie. Et ça, c'est hyper important. C'est un label. Ça, on t'a labellisé. Et souvent, on donne des prix à des auteurs qui sont installés. Donc après, il y a des prix qui sont dotés et puis il y a des prix qui font vendre. Et ça, c'est pareil, c'est des barèmes. C'est-à-dire que tu as le prix Goncourt, si tu as gagné le prix, si tu as le prix Goncourt. Mais ça, tout le monde l'a dans un coin de la tête. De se dire, je peux gagner le prix Goncourt. Regarde, c'est très simple. Brigitte Giraud, elle a gagné le prix Goncourt. Ils annonçaient, Livre Hebdo, le lendemain, un tirage à 400 000 exemplaires. Donc, c'est un gros appart. Déjà, tu sais que tu as un appart à 400 000 exemplaires. Tu sais que tu vas gagner possiblement au minimum 400 000 euros. Tu vois. Donc, il y a ça. Mais quand tu ne le gagnes pas, ce prix-là, que tu es en shortlist, et quand tu reviens à la valeur des textes, par exemple, si tu prends l'exemple d'un mec comme Bougarsard. Bougarsard, c'est juste avant Brigitte Giraud, il fait La plus secrète mémoire des hommes. Juste avant La plus secrète mémoire des hommes, qui est pris Goncourt, il a écrit des livres qui sont vendus à 1500 exemplaires. Et pourtant, c'est la même écriture. C'est la même force, c'est la même qualité. Mais juste avant, il fait 1500. Donc, ce n'est pas relié forcément à la qualité d'un texte. Ça, en fait, ça prend du temps. Ça prend du temps, une carrière d'écrivain.
À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais peut-être faire d'écrivain mon métier?
Bah, tout de suite. Mais après, tu déchantes. Après, il y a plein de petits moyens de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand tu dis, on en revient au loto, tu dis, t'es publié, t'as gagné au loto. Bon, t'es publié, ça dépend de la maison où tu es publié. Mais si tu es publié dans une bonne maison, tu sais que ton livre va être porté, qu'ils vont mettre des moyens sur toi. Parce que c'est ça aussi. Les représentants prennent les livres et des fois, ils ont 15 000 livres à présenter à des libraires.
Les représentants, c'est les commerciaux.
C'est les commerciaux qui font le tour de la France.
Voilà, ils font l'interface entre les maisons d'édition et les libraires.
Voilà. Alors, des fois, ce sont des commerciaux qui sont des externes. En fait, quand tu fais appel à des boîtes de diffusion. Et des fois, comme c'est le cas pour ma maison d'édition, on a nos propres représentants. Ça, c'est une chance inouïe. Donc, voilà, il y en a qui vont avoir leur propre représentant, donc ils vont partir avec 3 bouquins et pas avec 15 000. Et finalement, ton livre, il a plus de chances de se retrouver sur des établis de libraires.
En tête de gondole, bien placé.
Ils vont mettre de l'argent sur la diffusion web, ils vont mettre l'argent. Tu vois, c'est.
Il y a un côté commercial derrière, marketing.
Ils vont t'accompagner. Tu vas faire, je ne sais pas. Moi, par exemple, sur mon dernier bouquin, j'ai fait je ne sais pas combien de librairies. Ça, c'est de l'argent aussi. Bon, tu n'es pas payé pour y aller.
Et si... Allez, donc, il y a un temps, en fait, qu'on te demande à toi en tant qu'auteur, qui n'est pas seulement consacré à l'écriture, qui est consacré à la promotion de ton
Complètement.
Livre.
Complètement. Et ça, moi, je me pose la question de ce que c'est si tu as un CDI, par exemple. Moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait cette année si j'étais en CDI dans une boîte, par exemple.
Toi, tu es freelance. Au moment où ta carrière d'écrivain se lance, tu es vidéaste. Donc, tu as d'un côté un métier qui décline, qui te permettait de payer ton loyer jusqu'à présent. Et de l'autre côté, un nouveau métier qui monte.
Voilà. Et c'est un métier qui peut rejoindre l'autre. Quand la chance d'être édité, c'est aussi la chance de rentrer dans un monde. Après, c'est à toi d'être malin, quelque part. Les temps sont tellement longs. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai sorti mon livre, là, cette année. Mon prochain livre, il sera dans 2-3 ans. T'imagines, qu'est-ce que je fais pendant 2-3 ans si je n'ai pas de revenus?
De quoi tu vis?
De quoi je vis? De rien. De rien, je continue à faire des vidéos pour la Caisse d'épargne et pour Pôle emploi. Donc, si tu veux vivre vraiment de ça, il faut que tu te lèves, tu vois. Il faut que tu te lèves et que tu y ailles, tu vois.
Et il n'y a personne qui vient te...
Non.
Tu ne pointes pas au bureau, quoi.
Non, il n'y a personne.
Tu es tout seul, en plus.
Tu es tout seul, donc il faut que tu proposes des choses. Et il faut que tu proposes des choses qui fassent qu'à la fois, tu n'es pas oublié aussi, quelque part. Tu n'es pas oublié, tu crées des choses, tu crées du contenu, que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma, je ne sais pas, dans le podcast, dans la presse. Donc, il y a plein de moyens qui peut ramener aussi un petit peu d'argent, pas énorme. Mais tu peux faire des choses, tu vois.
Les écrivains, ils pensent beaucoup à ça. Alors, j'ai l'impression que les écrivains, c'est beaucoup de gens très différents hein, comme milieu.
Ouais.
Ils pensent une carrière emploi ?
Mais oui.
Ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens largués et quelques gens très riches ?
Il y a plein de profils différents, même dans la manière d'être payé. Il y en a qui sont rémunérés. Il y en a qui sont salariés des maisons d'édition. Ah oui, il y en a qui négocient des salaires. Il y a des écrivains qui négocient des salaires. Qui disent, ben moi, pour le prochain, j'ai besoin de 2 ans de salaire pour écrire mon livre. Mais ça, tu ne le sauras pas, toi. Tu ne le sauras jamais. Si tu ne vas pas gratter ces informations-là, tu ne le sauras jamais. Et c'est pour ça que les agents prennent de plus en plus de place dans ce métier-là.
Toi, tu n'as pas pensé à prendre un agent ?
Bien sûr que j'y ai pensé, tu y penses, parce que quelque part, tu as envie de plus avoir à penser à tout ça.
L'agent, c'est aussi un grand luxe, c'est celui qui te permet de ne pas penser à la thune.
C'est ça, t'es libre. Parce que finalement, quand tu négocies, tu es toujours le sale gosse, tu vois. Quand tu négocies de l'argent, tu es... T'es soit celui qui n'est pas reconnaissant ou celui qui te la raconte. T'es trop égocentré, pour qui tu te prends, t'es trop narcissique, tu fais chier en fait. C'est vulgaire, l'argent est complètement vulgaire. Quand tu dis à quelqu'un, putain, fais chier, j'ai perdu le Landerneau. Moi, cette année, j'ai perdu le Landerneau.
Le prix
Landerneau, on n'était plus que 4. J'ai dit, putain, 10 000 euros, ça me fait mal, quoi. T'as pas le droit de le dire. J'ai dit, moi, ça me fait mal, ça me fait chier, j'ai perdu 10 000 euros. Tu vois, je peux le dire. 10 000 euros, c'est un gros apport sur un appartement que je pourrais acheter. C'est une épargne. C'est énorme. Donc, aimer, quelque part, tu n'en parles jamais de cet argent-là. Tu n'en parles jamais. L'argent, tu n'en parles pas.
J'ai l'impression que c'est un milieu où c'est encore plus touchy, encore plus compliqué d'en parler que dans plein d'autres milieux.
Non, parce qu'en fait, tu te dis comment... Moi, je me suis souvent posé la question. Je me suis dit... Comment ça tiendrait si, par exemple, on augmentait les pourcentages de tous les auteurs ? Est-ce que l'industrie du livre pourrait continuer à fonctionner ? Je ne sais pas.
Parce qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent et qui gagnent très, très peu d'argent, en fait.
Bah oui, ils sont tous profs, soit ils ont des métiers, soit journalistes. Ils ont tous un boulot. Et d'ailleurs, ce qui favorise aussi, quelque part, une littérature bourgeoise aussi. Et assez vieille aussi. Un mec de quartier, par exemple. Un mec de quartier, tu crois qu'il va passer 2 ans à écrire sur un bouquin en se disant « Mais ça ne va rien me rapporter. » C'est pas possible. Et au moment où finalement où tu arrives à la quarantaine, il faut que tu gagnes ta vie. C'est pour ça que ça participe à... Finalement, la littérature est assez bourgeoise dans son ensemble. Alors, il y a des contre-exemples, bien sûr. Et je ne connais pas la vie de tout le monde, mais quand tu es dans des salons littéraires, tu te rends compte que tu es quand même dans un certain milieu, tu vois.
C'est un peu uniforme.
C'est un peu uniforme. Tu t'en rends compte dans la presse, par exemple. Moi, je n'avais pas conscience, par exemple, que le Figaro magazine avait autant d'influence sur le milieu littéraire. Le Figaro magazine. Tu vois, c'est un gros marqueur, le Figaro magazine. Elle magazine. Elle magazine, mais putain, moi je voyais ça dans les toilettes de chez ma grand-mère. Et en fait, Elle magazine a une puissance dans est extrêmement prescripteur, peut-être plus prescripteur que Le Monde ou que Libé en matière de littérature. Non, c'est un monde qui est quand même très Saint-Germain-des-Prés dans un sens. Très parisien, c'est une certaine classe d'âge, il y a des jeunes qui rentrent là-dedans, mais après il faut qu'ils puissent durer, il faut qu'ils puissent continuer à bosser là-dedans.
Il y a des nouveaux entrants en termes de marqueurs, justement, que ce soit de prescription ou de maison d'édition. Il y a un rajeunissement, un renouvellement des gens qui viennent bousculer les codes.
C'est très contrôlé. La maison d'édition demande un modèle économique pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que tu peux faire, si tu fais que de la littérature pure, Si tu fais que de la littérature hyper élitiste, avec des trucs de l'ordre presque de la prose, des trucs hyper engagés et compagnie, tu vas vendre à des gains. Comment tu fais pour vivre? Si tu n'es pas soutenu par un gros groupe, tu ne peux pas survivre. Ou alors, si tu fais de la littérature, il faut que tu doses tes choses. C'est-à-dire, tu dis, bon, je vais faire un peu plus du mainstream, et puis là, je vais aller sur... Et puis finalement, le reste de l'année, je vais faire du développement personnel, je vais vendre des livres de développement personnel, des trucs sur le yoga, des trucs sur... voilà, tu mélanges aussi toutes les causes, les contextes.
T'as l'air de prendre ça quasiment comme si t'étais avec eux, alors que toi, en fait, t'es juste écrivain.
Non, mais moi...
C'est pas forcément ton problème,
mais
tout ça.
Oui, mais je l'observe, tout ça. Je suis là en qualité d'observateur, je le vois. Et tu t'en rends compte de ces choses-là. Tu te dis, bon, ben, tu vois c'est les maisons qui se montent. Tu te dis, ben, combien ils en ont vendu de ça? Combien ils ont d'employés? Combien il faut qu'ils en vendent pour pouvoir survivre, pour pouvoir se payer leur relation presse, pour pouvoir se payer les déplacements en train, les nuits d'hôtel pour les auteurs. Tout ça, ça a un coût. Donc, les maisons d'édition, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, comment tu fais pour à la fois gagner du fric et continuer à faire de la littérature. Moi, à chaque fois que je me déplace, je suis très bien pris en charge. Chez nous, chez l'Iconoclaste, tu es super bien pris en charge, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, tu arrives dans des super hôtels, tu bouffes super bien, et des fois, dans les salons, il y a des salons qui te payent pour faire des interventions. Donc, certains salons, pas en librairie, mais en salon, t'es payé pour faire des interventions.
Tu viens parler de ton livre dans un débat.
Tu viens parler de ton livre dans un débat avec d'autres auteurs sur des thématiques. Tu es là, tu passes une heure et tu es payé 250 balles, 300 balles en fonction des salons, tu vois. Donc, tu as aussi tous ces petits revenus.
Ah oui, donc ça peut faire un plus un qui te, voilà. Qui te permette de tenir jusqu'à la sortie du deuxième ou du troisième.
Non, je sais pas, ça te permet pas de tenir. Regarde-moi, 25 000 exemplaires, c'est un coup de fusil. Il y en a qui les font, les 25 000. Mais même moi, si j'avais à vivre que sur la littérature, j'y arriverais pas. Alors que j'ai eu un succès. Mais j'y arriverais pas à vivre que
le
de
deuxième,
ça.
Il part comment, là?
Je pense qu'il part moins bien que 5 dans tes yeux.
Tu vas dire son titre quand même à un moment.
Ouais, Tibi la Blanche. Tu vois, c'est pareil. Tibi la Blanche, c'est un livre qui est plus soutenu par les libraires que 5 dans tes yeux. Mais Tibi la Blanche, c'est l'Afrique. L'Afrique... Tout le monde en a rien à foutre, quoi. C'est la vérité. Ma femme, elle me disait, la dernière fois, elle me disait, Tibi, il a été reçu comme une immigrée a été reçue en France. C'est la même chose.
Tu le savais en l'écrivant, t'y as pensé ou pas?
J'ai pas pensé. Franchement, j'ai pas pensé. Moi, j'ai juste kiffé au moment d'écrire. Et si tu kiffes pas au moment d'écrire, t'écris pas. Franchement, t'écris pas. Donc moi, j'ai pas pensé. Non, j'ai écrit, j'ai fait mon livre. Et puis, moi, je suis pris dans ce truc du deuxième roman. Le deuxième roman, en France, il est connu pour être celui qui passe sous les radars. Donc, je passe sous les radars au niveau de la presse. Mais quand je dis ça à mon éditeur, lui, il va me dire, non, mais attends, t'imagines le nombre de gens qui aimeraient être à ta place. Et c'est la vérité aussi. Je suis 11e dans le classement libraire. J'ai eu des petits trucs dans Le Monde, petits trucs dans les Inrocks. Et si tu n'écris pas un truc... j'en parle encore de conjoncture. C'est en ça que je parle de conjoncture. Peut-être que si je l'avais écrit 3 ans avant... l'Afrique était plus porteur, le sujet était plus porteur. Aujourd'hui, on sort du Covid, on est plus sur des problématiques de féminisme. Tu vois, c'est plus ça les sujets porteurs. Le sujet est important.
Alors là, il va te falloir 2 ou 3 ans avant de réécrire, avant de ressortir un livre. De quoi tu vas vivre pendant ce temps-là?
J'ai quand même... le cinéma qui m'ouvre des portes. Donc, j'ai quand même un producteur avec lequel j'ai écrit l'adaptation de 5 dans tes yeux en coécriture avec le réalisateur. Mais je pense que j'ai bien connecté avec le producteur qui quand même me tend la main au niveau cinéma. Donc, qui me propose d'écrire sur des courts-métrages. Alors, je ne sais pas ce que ça me rapportera. Mais je suis invité dans des universités pour faire des masterclass. Tu vois, c'est aussi ça, devenir auteur. Devenir auteur, c'est avoir un certain statut. C'est-à-dire que tu es invité par la presse, par le truc, pour faire des piges, pour faire des trucs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à toi d'être malin, c'est à toi de continuer. En fait, tu écris un premier livre, mais c'est le début. Il faut rien lâcher. La grande question des auteurs, c'est souvent quand les auteurs sont des auteurs un peu plus aguerri que toi ou confirmé que toi, la question qu'il te pose, c'est « ça se passe bien pour toi ?» Ça, c'est une question qui revient souvent. « Ça se passe bien pour toi ?» Et toi, tu réponds toujours « oui ». Tu dis pas « non, ça fait chier, je vends rien, c'est la loose ». Tu dis pas ça, tu vois. Tu peux pas dire « non, c'est la merde, je vends rien, c'est la misère, j'aurais voulu vendre beaucoup plus, j'aurais voulu être sur le féminin, ils font chier ». Tu peux pas dire toutes ces choses-là, mais même si tu le penses. Donc tu dis « oui, ça se passe bien », tu vois. Mais tu penses au coup d'après. Mais souvent, tu entends, notamment sur les premiers romans, ouais, elle a rien écrit depuis 2 ans, même pas une ligne, tu vois, depuis son premier bouquin, elle a rien écrit. Ou alors, tu entends, ouais, j'ai combien d'auteurs j'ai entendu, enfin, j'ai vu écrire 2 bouquins et puis disparaître complètement. C'est hyper compliqué de durer dans le temps, d'en sortir 10. C'est parce que c'est éprouvant. Physiquement, mentalement, écrire un bouquin, c'est porter des personnages dans ta tête, c'est porter des histoires, c'est y penser tout le temps, c'est aussi une manière de t'isoler du monde. C'est très isolant, en fait, d'écrire. Oui, il y a un truc de ténacité aussi d'y croire en toi, et te dire, bah, ok, ça n'a pas marché sur celui-là, mais le prochain, je suis capable de faire, pourquoi pas, un best à 300 000, tu vois, 300 000 exemplaires, ou un truc à 55 000, ou alors d'avoir un gros prix littéraire. Je suis capable.
Et les gens qui ont encaissé un énorme blockbuster comme ça ?
Ça les tue. Encore pour revenir à Bougarsard, il dit c'est une expérience, prix Goncourt donc, c'est une expérience à la fois merveilleuse et terrifiante. Quand tu écris un gros truc, il y a le prochain, on t'attend au tournant, on t'attend toujours au tournant.
Et alors, là, il a vendu combien, Tibi la Blanche ?
Ben, je sais pas.
Tu sais pas encore ?
Non, je sais pas, mais peut-être, je sais pas.
Si c'était trop nul comme vente, est-ce que ton éditeur pourrait te dire « oui, bon, on n'est pas sûr pour le prochain ».
Bah, bien sûr, t'es beaucoup moins porté, mais ça, c'est une évidence, mais ça, c'est la loi du marché. Après, tu peux toujours, si ton éditeur te veut pas, essayer de trouver d'autres maisons. Quelque part, voilà, tu as grillé une carte, on va dire.
Ton métier de vidéaste, t'en es où, là ? Tu continues, pour l'instant, par sécurité ?
Ah ouais, je continue, mais j'ai de moins en moins de clients. C'est...
Là, on arrive à la fin de l'année. Ouais, on va faire une année à combien ?
Ça se réduit. Bah, je sais pas, 40 000, 30 000. Ça se réduit. La vidéo, en tout cas en communication, c'est un truc qui se réduit mais d'année en année parce que tout le monde filme aujourd'hui. Tout le monde prend son portable, filme ses trucs sur Instagram, tout le monde commence à accéder au montage, tout le monde commence à faire du film. Les entreprises te sollicitent de moins en moins. Plus tu rajoutes à ça le Covid qui a habitué les gens à communiquer. Moi, je travaillais beaucoup sur la communication interne. Donc, les gens communiquent en s'envoyant des vidéos. Donc, la vidéo disparaît un peu.
Mais il y a aussi que toi, tu es beaucoup moins présent pour chercher des nouveaux clients.
Je l'ai été. Donc, j'ai perdu ça. Tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai peut-être fait l'erreur ou pas de me dire « maintenant, j'ai envie d'être écrivain. Donc, j'ai plus envie de faire des vidéos. » Parce que
c'est vachement dur de revenir à son ancien métier quand on a goûté à tous les plaisirs, à ce cadeau dont tu...
C'est horrible. C'est horrible.
Tu parles.
Comment tu fais ? C'est horrible. Bah oui, parce que tu as goûté à... Tu as mangé un super bon repas, il faut que tu retournes au kebab, tu vois ?
Bah l'argent, il n'a pas la même saveur quand il vient de ce que tu as produit comme artiste et de ton métier
non, mais après,
d'artisan,
c'est... Eh oui.
Apparemment.
Et puis en plus, quand... On en revient à une rentrée littéraire, quand on dit c'est un cadeau. Tu vois, c'est crevant. Là, tu me vois, je suis au bout de ma vie là, en ce moment. Mais c'est quand même un truc, tu vois, aller dans des salons, aller chez des libraires.
T'es bien traité.
T'es super bien traité. Puis...
Quand t'as un client pour une vidéo, bon, bah, c'est pas exactement le même traitement.
Non, ça n'a pas la même...
Et là, tu dois parler argent et c'est pas vulgaire, mais... Mais c'est âpre, éventuellement, c'est...
Non, c'est vrai.
300 jours, oui, non, on va vous baisser le devis de 20%.
Exactement. J'ai la chance d'être un peu soutenu par... Vraiment, comme des mécènes, par des entreprises qui continuent à faire appel à moi.
Ah, il y a des entreprises privées qui n'ont aucun rapport avec la littérature, qui...
Bah oui, qui ont tout vu, qui ont vu que tu fais au niveau local des grosses pages dans la Provence, dans la Marseillaise, que tu es passé chez Ruquier, tu as quand même
Ils vont te demander des vidéos de com' interne.
Mais ouais, parce que, bon, après tu bossais pour eux avant, mais quelque part, voilà, ils sont contents aussi de voir que voilà, c'est Adrien Belz, c'est lui qui nous fait nos vidéos et il a sorti ce bouquin. Mais il y a un côté un peu sympa, tu vois, là-dedans.
Mais dans un an, tu ne saurais pas du tout de quoi tu vas vivre, en fait.
Non. Franchement, je sais pas. Ah là, je suis en... Bon, ma femme, qui a une formation de notaire... Hein,
et qui est comptable.
Et qui est comptable, essaye de plus en plus de s'orienter vers l'immobilier. On essaie d'acheter encore un appartement à Marseille pour pouvoir le louer. Tu vois, il y a tout ce truc où on essaye finalement de créer en fait, de la richesse pour, aussi un peu pour moi, tu vois, pour que je puisse continuer à essayer d'aller choper le pompon du manège, tu vois.
Oui, donc c'est ça, il faut s'organiser financièrement
ouais.
pour que tu puisses continuer à avoir une vie d'artiste.
Ouais, mais une vie d'artiste qui rapporte quand même, parce que j'ai quand même rapporté de l'argent. Et puis, tu as une perspective. Même si Tibi marche un peu moins, il marche quand même. Tu vois, je suis quand même repéré, les libraires me connaissent, et c'est pas rien. Tu vois, je suis un peu installé, mais j'ai juste voilà, une fesse dans le fauteuil. Je suis pas dans une situation encore hyper confortable, tu vois.
Les auteurs que tu peux rencontrer sur les salons, etc., ils parlent de leur autre boulot, de ce qu'ils font pour vivre?
Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais non, mais les gens, ils parlent pas trop de ce qu'ils font. Mais tu sens globalement une certaine galère, tu vois, de la part de tout le monde. Tu sens pas des mecs qui roulent sur l'or, tu vois. Tu sens pas que ça roule sur l'or.
Parce que tu disais un peu l'inverse, tu dis c'est quand même un peu bourgeois.
Oui, c'est un peu bourgeois, le milieu est bourgeois. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est-à-dire les journalistes, les éditeurs, tu sens que c'est une certaine opulence. Mais les auteurs souvent sont des gens un peu meurtris, un peu, tu vois, un peu fatigués, qui sont un peu sur eux-mêmes, qui sont assez touchants des fois même d'ailleurs. Mais tu sens pas que les auteurs, ça sort pas la planche à billets, t'es pas dans un clip de rap, tu vois. Tu sens pas que ce sont des gens qui sont très très bien financièrement. En tout cas, ils le font pas sentir, tu vois, ils le font pas sentir. Mais quand même, leur richesse, c'est d'avoir écrit ces bouquins. C'est d'avoir ces bouquins. C'est ça, la plus grande richesse des auteurs. C'est te dire, mais voilà, regarde, j'ai écrit 2 livres, j'en ai écrit 4, j'en ai écrit 5. Elle est là, la grande richesse. C'est-à-dire que c'est nous, quelque part. J'étais à Besançon, en début de rentrée, j'avais à côté de moi un mec qui s'appelle Gilles Marchand, qui a écrit déjà 4-5 bouquins, tu vois. Il a écrit 4-5 bouquins, il doit avoir peut-être 5-6 ans de plus que moi, peut-être mon âge. Et du coup, je lui posais la question, et ça va, tu as envie? Il me dit, ah non. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ah ben, je suis prof. T'as pas envie d'entendre ça? Toi, quand t'es auteur, t'as pas envie d'entendre que l'autre, il galère. Parce que t'as envie de rester dans cette espèce d'illusion que tu vas vivre de ça, tu vois. T'as pas envie d'entendre que le mec, il bosse dans un CAP ou je sais pas quoi. T'as pas envie de l'entendre. Parce qu'on a envie de... Quelque part, on nourrit ça, nous aussi. On nourrit le fait qu'on vit de ça. Même si on n'a pas les revenus qui tombent sur nos comptes en banque, mais quelque part, on se déplace, on est là, on joue le jeu des mondanités, on parle d'une manière peut-être des fois plus intelligente qu'on ne l'est. Donc voilà, on n'a pas envie d'entendre que l'autre, il galère, tu vois. C'est pas possible. C'est la fin du fantasme. C'est la fin du rêve de l'entendre.
Et voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Frédéric Fortuny, toujours sur une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires, par exemple sur Apple Podcasts. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas du tout anodin. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Et nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee. Parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et enfin, si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier, ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter sur Insta, sur Facebook. On répond toujours. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.